Bien, alors encore, bonjour et bienvenue à chacune et chacun. Et j'aimerais m'arrêter ce matin sur deux mots qu'on utilise souvent. Vous savez qu'on a fait, on a terminé le livre de Colossiens, on fait une petite pause, on va reprendre un livre à la rentrée. Donc j'avais envie ce matin de voir un sujet comme ça un petit peu à part. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble souvent, très souvent, quand si je vais voir sur un site d'une église la confession de foi, ou quand on rencontre des gens, ou comme ça, hein, et puis qu'il y a toujours la question qui est posée, quel est le but de l'église, ou pourquoi on est là, ou qu'est-ce qui est le plus important pour les chrétiens. Alors, il y a souvent ces deux mots qui reviennent, honorer et glorifier Dieu. Et je trouvais intéressant de m'arrêter sur ces deux mots ce matin, pour qu'on réfléchisse ensemble déjà sur le contenu que nous y mettons, et puis sur peut-être celui qu'il faudrait y mettre. Parce que vous savez que les mots, c'est tellement important, hein. Dieu nous a parlé, la parole est quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, on s'aperçoit que c'est tellement compliqué la communication. Hein. On utilise les mêmes mots, on a l'impression qu'on parle des mêmes choses, et en réalité, c'est comme des boîtes, hein, je dis souvent, avec... Il y a un nom écrit dessus, mais chacun d'entre nous a un contenu différent dedans. Alors, je ne sais pas pour vous, si vous pouvez y réfléchir en quelques secondes, je ne vais pas vous demander de vous exprimer à votre voix, peut-être on est un peu plus nombreux ce matin, mais qu'est-ce que ça recouvre pour vous quand on dit « il faut honorer et glorifier Dieu » Parce que si on comprend mal, bien sûr, ça va avoir des conséquences. Hein. Vous connaissez cette petite blague, juste pour vous laisser le temps de revenir là. Cet homme qui recevait toujours ses parents, et puis il avait une très grande maison, et puis il leur donnait toujours la plus mauvaise chambre quand ils venaient. Celle qui était froide, qui était au courant d'air, au vent. Puis un jour, sa femme lui dit, mais écoute, tu aimes tes parents, tout le temps tu parles d'eux, et chaque fois qu'ils viennent nous visiter, tu les mets dans cette mauvaise chambre, là, pourquoi? Et puis il dit, c'est simple, parce que moi, je crois à la Bible, dans la Bible, il est dit, honore ton père et ta mère, alors je leur donne la chambre qui est au nord. Hein, voilà. Donc, bien sûr, ça va pas très haut. Hein. Mais pourquoi je me permets de raconter cette petite blague pour commencer? Parce que ça montre, d'une certaine façon, en nous faisant sourire, comment on peut sincèrement se tromper en utilisant des mots et en leur donnant un sens qui est faux. Et on voit que c'est quelque chose que déjà Jésus a relevé, hein, puisqu'il y a ce verset d'Ésaïe, 29-13, mais que Jésus reprend dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, les versets 6 et 7, et je le lis dans Ésaïe. Le Seigneur dit, « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. C'est-à-dire que ces gens faisaient ce qu'il fallait comme il fallait, mais ça ne plaisait pas à Dieu, parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait dedans. Ce n'était pas un problème sur la taille des agneaux, sur la façon de tenir le couteau, sur les habits, sur l'heure du culte, sur... Tout ça était bien fait, mais il n'y avait pas le bon contenu derrière. Et pour essayer de nous guider ce matin dans cette réflexion, je pensais à la parabole du fils prodigue, celle qu'on appelle la parabole du fils prodigue ou la parabole du fils aîné, ça dépend un petit peu, hein, c'est les deux. Honnêtement, si on nous racontait cette histoire, puis au début je voulais le faire, puis après j'ai laissé tomber l'idée, hein, mais en la transposant aujourd'hui, hein, un décolleteur qui avait deux fils, et puis... il en forme un qui est sérieux, qui apprend le métier et qui fait tout ce qu'il faut pour reprendre son entreprise. Et puis l'autre qui dit, moi je veux la moitié des actions de la boîte. Et puis il s'en va. Et il vit une vie, n'importe quoi avec cet argent, il dilapide ça, il vit dans la débauche, il ne travaille pas. Et puis, finalement, il revient, mais il revient, il a tout dilapidé, etc. Et nous, on apprend cette histoire, hein. Comment on qualifierait ces deux personnes? Lequel des deux a honoré son père? Lequel a glorifié son père? Je pense qu'en tout cas, si on faisait un sondage dans la région, il y aurait l'unanimité. Hein, Évidemment, celui qui a fait son apprentissage, qui restait là, qui arrivait à l'heure au boulot, qui partait à l'heure du travail, qui partait même pas en vacances tellement il était consciencieux, il faisait toujours tout comme il faut, alors que l'autre déshonore son père. Il a mangé la moitié des biens, on sait ce qu'il a été faire avec, parce qu'on a appris, etc., etc. Et pourtant, dans l'évangile, lequel des deux a glorifié Dieu? Pas que ce soit bien, attention, pas que ce soit bien de vivre dans le péché. Mais celui qui a glorifié Dieu, c'est celui qui est revenu. Et on voit dans cette parabole comment le fils qui avait tout fait ce qu'il fallait, comme il fallait, quand il fallait, à un moment, son cœur est révélé, et en fait, il est passé complètement à côté. Pourquoi ? Parce qu'il a fait ce qu'il fallait, sans le faire pour les bonnes motivations. Et puis on s'aperçoit toute l'amertume qui était cachée dans son cœur. Tu m'as jamais donné un agneau pour faire la fête. En gros, j'ai pas eu de prime de fin d'année pour pouvoir aller au ski un peu plus longtemps. J'ai pas. Et le père a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien compris. Tout ce que j'ai est à toi. Si tu avais envie de partir une semaine en vacances, tu pouvais le faire. Mais on voit au travers de cette histoire que les comportements semblaient dire que, mais en réalité, ce qui a glorifié Dieu, c'est celui qui à un moment a découvert « Mon Père est un Père d'amour, un Père de grâce, et je peux revenir vers lui. » Même s'il n'avait pas une pleine compréhension, puisque dans son idée c'était « Je vais revenir, et puis évidemment il ne peut pas me prendre comme associé. Mais s'il a besoin d'un gardien de nuit, et quelqu'un pour faire le ménage, quand les gens qualifiés sont pas là, je pourrais peut-être avoir ce boulot. Au moins, je serais plus dans la rue. Et puis, le père le rétablit dans ses droits, de façon injuste, on pourrait dire, par rapport à celui qui est resté. Puisqu'il lui donne son anneau, c'est-à-dire aujourd'hui, il donne de nouveau accès au compte, il lui rend la carte de crédit, il lui redonne tout, quoi. Et puis, nous, ça nous choque, parce qu'on se dit, c'est pas juste. C'était un mauvais témoignage. Il a déshonoré le nom de la famille. Et Dieu dit, ce qui me glorifie, c'est que vous ayez besoin de moi, c'est que vous dépendiez de moi et que vous le manifestiez. Jésus dit dans Jean 15, versets 7 et 8, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Et si vous produisez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. » Dans d'autres traductions, « Mon Père sera glorifié si vous portez du fruit », c'est le même sens. Mais j'aimais cette tournure-là, parce qu'elle montre bien que ceux qui glorifient Dieu, ce n'est pas nos exploits pour plaire à Dieu, c'est que la vie de Dieu porte du fruit en nous. Alors bien sûr, pour ça, on n'est pas obligé de sombrer dans le péché pendant des années pour revenir à Dieu. On peut le comprendre avant et vivre dans une vie sainte, droite, juste, c'est ce que Dieu veut, c'est sa volonté. Mais on est, il me semble, trop souvent avec Dieu, comme on peut être en tant qu'enfant par rapport à nos parents, pas tous, mais certains tempéraments, vous savez, où on veut réussir pour que nos parents soient fiers de nous et on veut réussir sans leur aide, pour leur prouver qu'on est capable, mais au fond, derrière, quelle est l'idée? Je veux qu'ils soient fiers de moi. Et j'ai cette idée fausse, parce que je ne pense pas que les parents soient comme ça, que pour qu'ils soient vraiment fiers de moi, il faut que j'y arrive sans qu'ils m'aident. Et on est comme ça avec Dieu. Si j'arrivais à être bon, à être juste, à être saint, alors là, je glorifierais Dieu, et puis je peux venir vers Dieu, et tu vois, tu peux être fier de moi, j'y arrive. Et Dieu dit, mais si tu pouvais y arriver sans moi, ça serait super, mais c'est pas possible. Ce qui me glorifie, c'est que les gens sachent que sans moi, tu n'y arrives pas, mais qu'avec moi, c'est possible. Parce que ma vie en moi, en toi, porte des fruits. Et c'est pour ça qu'avec ces deux mots, honorer et glorifier, j'aimerais en accrocher un troisième, qui est la reconnaissance. Et pour ça, je veux lire encore un verset d'un psaume. Dans le psaume 50, verset 23, il dit « Celui qui en sacrifice offre la reconnaissance me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai contempler le salut de Dieu. » Amen. Celui qui en sacrifice offre la reconnaissance me glorifie. Ce qui glorifie Dieu, c'est la reconnaissance. Et la reconnaissance, qu'est-ce que c'est? Vous savez, j'ai quelquefois plaisanté sur la façon qu'il y a de s'exprimer dans la région, hein, je suis reconnaissant. Non, c'est une belle chose, mais ce qui est important là aussi, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ces mots, hein. Si quand on dit « je suis reconnaissant », ça veut dire « j'ose pas me plaindre », bon, c'est bien. Mais être reconnaissant quand on parle de Dieu, il faut le comprendre dans son sens le plus littéral, ça veut dire « je reconnais que Dieu est dedans ». On a une des plus belles illustrations pour moi de la reconnaissance, c'est avec l'histoire de Jacob. Vous savez, Jacob, il a grandi dans une famille croyante, il a été éduqué par des parents croyants, hein, il connaît des choses sur Dieu, plein. Il ne connaît pas forcément Dieu, mais il connaît plein de choses sur Dieu. Et puis bon, il fait des erreurs, aidé par sa mère. Il s'enfuit, et là, il se couche, et pendant la nuit, Dieu vient vers lui. C'est toujours comme ça, c'est Dieu qui vient vers nous. Et puis il a cette vision avec les anges qui montent et qui descendent à l'échelle de Jacob, vous connaissez ça. Et au matin, il se réveille, et quelle est la phrase qu'il dit, qui est extraordinaire, hein? Certainement, l'Éternel était dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Ah. Alors bien sûr, Dieu est omniprésent, il est partout. Hein? Mais là, pour lui, tout d'un coup, Jacob, il venait de passer du Dieu de ses parents à un Dieu que j'ai rencontré, un Dieu que je connais, un Dieu avec qui je parle, plutôt un Dieu qui me parle et que je comprends. Hein. Il a reconnu Dieu dans cette situation. Et bien sûr, c'était le début de sa vie avec Dieu, il n'avait absolument rien compris. Hein. Il dresse une pierre et puis il dit, voilà, ça c'est la maison de Dieu. Et Dieu se dit, oh là 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 là, qu'il y a du boulot à faire encore avec ce gars-là. Comme avec nous, hein. Il n'a rien compris. Il s'imagine que Dieu était là. Alors, il met une pierre pour retrouver l'endroit. Comme ça, quand je reviendrai, je pourrai avoir exactement le même endroit parce que Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là. Mais là où il y a la pierre, Dieu est là. Hein. C'est la maison de Dieu, Bethel. Mais cette expression, quand il réalise tout d'un coup, « L'Éternel était dans ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Et là, Dieu est glorifié. Vous savez, dans la création, malgré la chute, à part l'homme, la création continue de glorifier Dieu. Les psaumes le disent. Qu'est-ce que ça veut dire que la création glorifie Dieu? Parce qu'on a beau, de façon poétique, dire « les arbres lèvent les mains pour louer Dieu », mais moi, j'ai jamais entendu un arbre qui levait les mains et qui louait Dieu. Mais quand un arbre pousse, quand un arbre absorbe le gaz carbonique, le transforme en oxygène, la photosynthèse, le machin, quand il fait ce pour quoi il a été créé, il glorifie Dieu. Lorsqu'une hirondelle reconnaît par les champs magnétiques comment repartir, traverser la mer, revenir à un endroit, elle glorifie Dieu. Hein? Lorsque l'abeille fait du miel, elle glorifie Dieu. C'est-à-dire que ces différentes parties de la création, que ce soit le monde animal ou végétal, fonctionnent selon ce que Dieu a prévu pour lui, même si on l'a un peu détourné, abîmé, etc. Donc, pour nous, qu'est-ce qui glorifie Dieu ? C'est lorsque nous faisons ce pourquoi Dieu nous a prévu. Et Dieu nous a prévu pour être en communion avec lui, pour être en relation avec lui. Et donc le but de nos vies chrétiennes, le but de la discipline, le but de tout ce qu'on va mettre dans nos vies, doit toujours viser rencontrer Dieu. Sinon, ça ne glorifie pas Dieu. Souvent, on s'imagine que tout ce qui est bien en termes d'actes, alors c'est Dieu. Et puis tout ce qui n'est pas bien, c'est pas Dieu. Effectivement, Dieu ne fait rien de mal, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que je fais le bien que je glorifie Dieu. On connaît tous, et nous-mêmes on est comme ça souvent, hein, des gens qui ont fait des choses bien, qui sont tellement fiers d'avoir fait bien, et puis qui en plus en général rajoutent, et puis moi personne ne m'a aidé, je l'ai fait tout seul. Ils ont fait bien, ce qu'ils ont fait, ça ne change pas que c'est bien. Mais ça ne glorifie pas Dieu. Et puis, ça n'a rien à voir avec le salut, hein, mais lorsque quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou qui ne le connaît pas personnellement, même s'il y croit de façon générale, fait ce pour quoi il a été prévu, ça glorifie Dieu. Encore une fois, ça ne le sauve pas, ça n'a rien à voir, c'est des sujets différents. Hein. Regardez, Pam, j'ai trouvé comme exemple, hein, ce verset dans les Proverbes. « Opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur. Mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est l'honorer. » Lorsque quelqu'un écrase les pauvres, il déshonore Dieu. Lorsque quelqu'un honore les pauvres, c'est-à-dire doit avoir de la compassion pour les pauvres, il honore Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Hein. Ça veut dire que dans ce moment-là, il fonctionne selon ce que Dieu voudrait. Mais pour nous qui le connaissons, qui sommes enfants de Dieu, si nous l'avons rencontré un jour, si nous l'avons accepté, hein, si nous avons compris ce qu'il a accompli pour nous, comme on l'a chanté ce matin sur la croix, son œuvre, sa mort, sa résurrection, et qu'on se le soit approprié. Hein. Et la Bible dit, vous êtes maintenant devenus enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, comment je vais glorifier Dieu? Ben, c'est pas juste en faisant des choses bien. Oui, c'est en faisant des choses bien, mais pour les bons motifs et pour le bon but. Sinon, ben, je fais des choses bien. C'est mieux que de faire des choses mal. Mais ça glorifie pas forcément Dieu. Et c'est tellement important de penser à ça. On voit dans 2 Corinthiens, encore je vais lire un verset, c'est Paul qui parle et dit « Car tout cela arrive à cause de vous », donc tout cela c'était les persécutions, le fait qu'il est en prison, toutes ces difficultés, « afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » J'utilise maintenant souvent la traduction du Semeur, mais ce que j'aimais dans les vieilles traductions, c'était cette expression « rendre grâce ». Parce que je trouve que c'est celle qui rendait le mieux l'idée de la reconnaissance. Rendre grâce. Déjà, la grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Et puis, on la reçoit et on doit la rendre. Ce qui glorifie Dieu, c'est que je rende grâce. Donc, que je reçoive quelque chose sans le mériter et que ce soit connu, que ça vienne de lui. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Et c'est pour ça que le but de nos vies chrétiennes, c'est d'apprendre la reconnaissance, d'en reconnaître Dieu. Après ça dépend des tempéraments, des personnes, on est tous différents, donc on ne doit surtout pas essayer de calquer nos expériences les uns sur celles des autres, elles sont individuelles et pas forcément interchangeables. Mais pour les gens qui sont sensibles à la beauté de la nature, certains le sont, d'autres non, c'est pas un problème. Lorsque je suis touché par un paysage, un coucher de soleil ou n'importe quoi, hein, et que ça me touche, c'est beau, et au fond de moi, il y a cet écho qui... Ça, c'est l'œuvre du Dieu que je connais. Hein. Lorsque je fais ça, je rends grâce à Dieu. Pourquoi ? Je lui attribue la beauté que je vois et qui me touche. Hein. Mais c'est vrai dans tous les domaines. Lorsque... je suis touché par autre chose, hein, que ce soit peut-être un chant de louange quand on a chanté, en lisant un texte de la Bible, etc. Toujours de le renvoyer à celui qui nous l'a donné. Et c'est ça qui le glorifie. Et c'est pour ça que vous voyez du coup l'expression quand je prie et que je dis « Dieu, je te glorifie et je t'honore », ça n'a pas trop de sens. Parce qu'en fait, c'est pas de le dire qui fait que... C'est de le manifester par la reconnaissance, comme je l'ai défini, hein, par notre vie. Par exemple, souvent, le fait de glorifier ou d'honorer Dieu est lié avec le fait d'écouter, comprendre sa parole et qu'elle conduise nos vies. Hein. Et je trouve que c'est tellement compliqué parce que on peut lire la Bible pour faire plaisir à Dieu, et c'est faux. Mais on peut lire la Bible, ou on doit lire la Bible, pour comprendre comment Dieu pense, pour que ça dirige nos vies, et là, ça le glorifie. Donc, vous voyez, le même acte va soit avoir rien derrière, soit glorifier Dieu. La Bible nous parle de la prière, c'est pareil. Si je prie pour convaincre Dieu de faire ce qu'il ne veut pas faire, ça sert à rien de prier. Si je prie pour que les gens m'écoutent prier, ça sert à rien. Si je prie parce que je me sens coupable, il faut prier, ça sert à rien. Et pourtant, je dois prier. Et pas pour ces raisons-là. Et lorsque je prie pour apporter à Dieu ce qui doit être apporté, pour lui rendre ce qui lui revient, pour lui partager ce que j'ai sur le cœur, fait pour vivre avec lui, ça le glorifie. Et ça nous montre encore une fois une chose, c'est que la Bible dit, le répète, mais on ne peut pas évaluer la vie des autres. Parce que, comme je l'ai dit au début, voilà, si on avait évalué le fils aîné, on lui aurait donné une bonne note, et l'autre, on lui aurait donné une mauvaise note, et on avait tort. Mais pour nos vies à nous, ça va nous aider à nous poser les bonnes questions. Si réellement je veux glorifier ou honorer Dieu, alors il faut que je comprenne ce que ça veut dire. Le mot honorer dans le Nouveau Testament, littéralement, il veut dire donner son juste prix à une chose. C'était un verbe commercial au départ. On vous amenait, un peu comme aujourd'hui un expert, on vous amène une œuvre d'art, puis on vous dit, je ne sais pas, est-ce qu'elle vaut 1000 francs, 10 000 francs ou 100 000 francs. Et puis l'expert, c'est son métier, il va regarder et puis il va dire, voilà, ça vaut tel prix. Ah, elle a été estimée à son juste prix. Et on pourrait dire que honorer cette œuvre d'art, c'est lui attribuer son juste prix. Et c'est le verbe dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'il est, on a le mot honorer, hein, c'est ce verbe-là qui revient, timao. Et là aussi, ça doit nous faire réfléchir. Comment j'honore Dieu? En donnant la juste valeur à ce qu'il dit. Et c'est clair qu'on se trompe toujours. Si j'essaie d'évaluer, on doit le faire, mais l'œuvre de Christ, ce qu'on appelle l'œuvre de Christ, ce qu'il a fait, quelle que soit la valeur que j'y mette, je me trompe forcément. C'est plus. Mais justement, de sans arrêt réévaluer cette chose-là, ça honore Dieu. Et puis, on peut appliquer ça à toutes les choses. Quelle est la valeur de... Voilà. Dieu m'a donné un conjoint, quelle valeur ça a? Dieu m'a donné des enfants, quelle valeur ça a? Dieu m'a donné la santé, quelle valeur ça a? Et voyez pourquoi c'est lié avec la reconnaissance. Parce que lorsque j'évalue à son juste prix ce que Dieu me donne, et qu'en même temps je reconnais que c'est lui qui me le donne, c'est pas parce que je suis doué, intelligent, oui mais c'est lui qui m'a donné ses dons et l'intelligence, et que je lui attribue ces choses-là, que je lui rends gloire et que je le glorifie. Et c'est pour ça que ça va devenir notre façon de vivre, plus qu'une façon de s'exprimer. Et on va faire ce pour quoi on a été créé. Comme le manchot empereur qui revient tous les 6 ans au même endroit pour se reproduire sur le point. Il a été fait pour ça. Quand il le fait, ça glorifie Dieu. Et nous avons été créés pour être en relation avec lui. Alors c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important qu'on ne confonde pas les informations sur Dieu et la relation avec Dieu. Connaître des choses sur Dieu ou vivre avec lui. Les premiers, c'est des outils indispensables, mais le vrai but, c'est d'être avec lui, comme c'était prévu dans le dessin original, et comme ça va se manifester pleinement dans l'éternité. Et c'est ce qui doit nous aider à décider comment on vit. Pourquoi je viens à ce rassemblement ce matin ? Oh, pour honorer et glorifier Dieu. D'accord, mais ça veut dire quoi ? Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi je lis ma Bible le matin ? Ben, pour honorer et glorifier Dieu. Oui, mais ça veut dire quoi ? Pourquoi je fais ci ? Pourquoi je fais ça ? Et de pouvoir se poser les bonnes questions, ça va nous aider à chercher Dieu dans toutes ces choses-là. Et puis à s'apercevoir qu'il n'est pas toujours comme là où on croyait. Ça ne se manifeste pas toujours comme on pensait. Mais la conclusion va toujours être la même. On va toujours finalement arriver comme Jacob et se dire « Ah, l'Éternel était là-dedans et moi je ne le savais pas. » Et c'est incroyable. J'aurais jamais pu imaginer que Dieu soit là, mais il était là. Parce qu'il nous attend partout. Alors je vous encourage pendant cet été à vivre comme ça en se posant les bonnes questions pour trouver comment je peux le glorifier et l'honorer concrètement, réellement, dans nos vies de tous les jours. Seigneur, on te remercie pour ce que tu as voulu vivre avec nous. C'est un mystère pour nous. On ne peut pas l'évaluer pleinement, mais on veut l'apprécier. Apprécier ta présence, apprécier ce que tu as fait pour nous. Et puis, que nous sachions dépendre de toi. Que nous sachions dire que nous avons besoin de toi. Que ta vie puisse porter des fruits en nous pour que la gloire t'en revienne. Que la gloire de ta grâce soit manifestée aux yeux de tous, Seigneur. Viens vraiment toucher nos cœurs avec ces mots qui deviennent des réalités et que ça puisse te glorifier pour ceux qui vivent autour de nous, qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas encore, et qu'ils puissent te voir au travers de cela, Seigneur Dieu. Amen.